Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu prêt ce soir à passer à un autre niveau? Es-tu prêt ce soir à ce que Dieu affermisse son règne en toi? Amen. Êtes-vous prêts? Vous savez, en priant pour vous, frères et sœurs, aujourd'hui, et en intercédant pour le précieux peuple de Dieu que vous êtes, à un moment donné, dans cette intercession, mon cœur était réellement rempli de tristesse, parce que réellement, je sais que plusieurs parmi nous subissent constamment les attaques de l'ennemi et sont souvent ballottés par les circonstances difficiles de la vie. Que ce soit par une maladie ou que ce soit par des relations brisées, que ce soit un mariage brisé, que ce soit des relations parents-enfants brisées, les situations qui nous entourent, les situations extérieures, souvent ravagent nos cœurs. Les tempêtes extérieures, malheureusement, rentre trop à l'intérieur et fait trop de dégâts à l'intérieur. Et en priant, je me dis, Seigneur, comment cela se fait-il que nous avons reçu un royaume inébranlable et nous sommes si souvent ébranlés? Comment cela se fait-il que tu nous aimes et tu nous as donné le Saint-Esprit, ta force, et souvent les circonstances extérieures viennent affecter notre intérieur? Pourquoi pas ce serait l'inverse? C'est-à-dire, au lieu que l'extérieur affecte l'intérieur, serait-il possible que l'intérieur affecte l'extérieur? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'intérieur affecte l'extérieur, au lieu que ce soit l'extérieur qui affecte l'intérieur? Un conflit, par exemple, de voisinage, et boum, on est affecté. Un problème financier, boum, on est affecté. Et la situation extérieure rentre. Pourquoi pas l'inverse? Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Le Saint-Esprit vit en nous. Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Cela signifie que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas faire en sorte que l'intérieur, Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit les Écritures, affecte l'extérieur. Paul et Silas en prison, par exemple, battus de verges l'après-midi, mis en prison, chaînes aux pieds. Là, les circonstances étaient difficiles. Et pourtant, à l'intérieur d'eux, il y avait le royaume de Dieu. Il y avait l'adoration, comme vous avez fait ce soir, qui bouillait dans leur cœur. Et là, elle commence à dire, non, ce ne sera pas l'extérieur qui va affecter l'intérieur, mais ce sera l'intérieur qui va affecter l'extérieur. Et il commence à adorer, il commence à louer Dieu. Et comme vous savez, la prison est ébranlée, parce qu'eux, ils étaient inébranlables. Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous devenions inébranlables. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Regarde ton voisin, dis-lui, tu as reçu un royaume inébranlable. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous ce soir. En priant et en intercédant pour vous, trop de frères et sœurs, trop de familles sont sous la pression de l'ennemi. Trop familles, les circonstances extérieures rentrent à l'intérieur. Et Dieu veut nous affermir ce soir. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 10, écoutez ce fabuleux verset. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça c'est la moins bonne partie, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ouh, c'est pas pour toi? Attends. Je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est une magnifique promesse. Si tu es ébranlé aujourd'hui par les circonstances, appuie-toi là-dessus. C'est sa parole qui est le roc. La Bible dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça c'est une bonne nouvelle déjà, la souffrance ne va pas durer tout le temps. C'est une bonne nouvelle, il y a une date de préemption sur la souffrance. Gâte le temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Moi je crois, et moi je m'attends à ça, parce que le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, est le roc, et il est inébranlable, et le royaume qu'il nous a donné est inébranlable. Et c'est ce que Dieu veut, que nous, le peuple que nous sommes, son peuple, nous soyons affermis et devenons à l'image de Jésus. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est cette réalité invisible qui a la capacité de changer et d'affecter la réalité visible dès maintenant et dès l'instant où ça se manifeste. Le royaume de Dieu a la puissance en elle-même pour changer les circonstances extérieures. Le royaume de Dieu est une réalité invisible. C'est le monde de Dieu qu'on ne voit pas qui est capable de changer le monde que nous on voit. Le royaume de Dieu n'est pas juste surnaturel, c'est-à-dire au-dessus du naturel. Le royaume de Dieu affecte, influence, change le naturel. C'est pas pareil. Et c'est ça la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le règne de Dieu est capable de changer n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, aujourd'hui et maintenant. Dès l'instant où toi et moi, nous comprenons qui vit en nous. C'est possible de manifester la puissance du nom de Jésus et la réalité du royaume de Dieu. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ne consiste pas en paroles, nous dit les Écritures, mais en puissance. Le royaume de Dieu n'est pas matériel. Le royaume de Dieu est spirituel. On ne le voit pas, mais par la foi, il change le monde visible. Et c'est ce que Dieu veut. Comment donc amener ce règne, cette réalité invisible, pour qu'elle change la réalité visible? Le mot règne, pour ceux qui ont fait l'école biblique, vous savez, en première année, on a tout un module sur le royaume de Dieu. Et j'encourage tous les frères et sœurs qui n'ont pas fait l'école biblique à vous inscrire. Je crois que ça va changer votre vie pour le meilleur. Et le royaume de Dieu, le mot grec, c'est le mot basilia, qui signifie domination. C'est le mot que Dieu dit, la bonne nouvelle de la domination, si vous préférez. Tu n'es plus dominé par les circonstances, tu domines les circonstances. Parce que l'intérieur influence, affecte, change l'extérieur et non plus l'inverse. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comment donc amener la domination de cette réalité invisible dans le visible? Comment faire pour que le règne de Dieu en nous se manifeste et exerce son autorité, sa domination autour de nous? Et c'est le thème que nous allons voir ce soir. Ce soir, le thème que nous allons voir s'intitule « Régner par la prière ». Si tu veux amener le règne de Dieu, si tu veux amener la domination de Dieu, il est impératif de savoir prier. C'est impératif. Jésus a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne. » Jésus est en train de dire à ses disciples qui demandent, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus dit, « Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Amène ta réalité dans ma réalité. Amène ton monde dans mon monde. » Dans le monde de Dieu, il y a la paix et la joie. Dans le monde de Dieu, il y a le pardon. Dans le monde de Dieu, il y a la force. Dans le monde de Dieu, il y a l'abondance. Et le règne de Dieu ne peut venir que prioritairement par la prière. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre à prier. Tout commence par la prière. L'exemple du prophète Élie, par exemple. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Regarde ton voisin et dis-lui, « Élie était un homme comme toi. » Homme avec un grand H, bien sûr. Femme, à chaque fois, je dis, quand on dit homme, on intègre bien sûr les femmes parce que c'est l'homme avec un grand H. Mais ne soyez pas vexés parce que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Donc si tu es l'Église en tant qu'homme, tu es l'épouse de Christ. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Je ne sais pas, mais ce gars-là était dangereux. La Bible dit qu'Élie pria et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Il recommença à prier et la pluie est arrivée. Est-ce que vous croyez que cet homme était efficace dans la prière ? Il faut comprendre ici que les circonstances sont difficiles à l'époque du peuple d'Israël. Et il y a un homme à la tête de ce peuple qui s'appelle, c'est le roi Akab. Il est marié à une femme qui s'appelle Jézabel et une mauvaise femme. Et le peuple va mal, les circonstances sont dures. Donc le gouvernement est à côté de la plaque. Le roi est à côté de la plaque. Mais ce n'est pas le roi qui domine, c'est le prophète. Quand le prophète prie, le roi peut taper des pieds, pas être content, fais tomber la pluie, je ne veux pas, je vais voter une loi pour mettre la pluie. Ça ne marchera pas. On voit ici le prophète Élie, par l'autorité de la prière, changer les circonstances. Ni le roi, ni les économistes de l'époque n'ont pu changer les choses. Seul le prophète Élie avait la capacité de changer les circonstances. Et la Bible dit, puis il pria et la pluie tomba. Il était dangereux. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour vous et moi, nous devenions dangereux dans la prière. Il a amené la domination de Dieu par la prière. Un autre exemple de l'église des Actes cette fois. Acte 12, à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était bien gardé, hein. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Le contexte ici, c'est que le roi Hérode avait fait tuer l'apôtre Jacques. Et il a vu que cela plaisait à la foule. Et il a dit, « Arrêtez-moi Pierre, et on va aussi tuer Pierre. On va offrir Pierre en spectacle à la foule. » Et je serai encore adulé, la foule sera contente. Que vraiment, j'extermine tous ceux qui parlent de Jésus de Nazareth. Et il le jette en prison. Et la Bible dit que l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu des prières pour Pierre. Et Dieu envoie son ange délivrer Pierre de manière surnaturelle. Parce que le monde de Dieu n'est pas juste sur le naturel, il affecte le naturel. Lorsque les hommes et les femmes savent prier, ça change la vie. Lorsque l'Église sait prier, ce n'est pas le roi Akab qui décide. ni le roi Hérode, c'est l'Église. Merci. Le verset, un peu plus loin, verset 21, il dit ceci. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Quand l'Église prie, le gouvernement change de main. C'est pas Hérode là qui décide. C'est pas les circonstances là qui décident. L'autorité, et là le royaume, la domination, est manifestée dans un exemple avec le prophète Élie, et dans l'autre exemple avec l'Église que nous sommes aussi. Une Église qui prie affecte non seulement la réalité spirituelle, mais aussi la réalité naturelle. Malheureusement, trop souvent, nous subissons les circonstances au lieu de changer les circonstances. Parce que nous ne savons pas encore comment bien prier, comment avoir une prière efficace, à l'exemple d'Élie. Ma question c'est, est-ce possible d'avoir une piété, c'est-à-dire une vie de prière, la piété qui s'attache à Dieu, efficace comme Élie? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Vous voyez, vous avez du mal déjà à dire amen. C'est comme si on se dit, oh, c'est peut-être pas possible ça. C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai et c'est beau. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, semblable à toi et moi. Mais Élie savait comment prier. Et il priait avec efficacité. Il avait une vie de piété redoutable. Et le cœur de Dieu pour toi et moi, son Église, si nous puissions réaliser que jeunes et moins jeunes, jeunes ou personnes âgées, si nous apprenons à nous exercer à la piété, nous aurons une vie de prière redoutable, capable de faire la différence dans les circonstances, où l'intérieur va affecter l'extérieur et non l'inverse, où le royaume inébranlable va ébranler les circonstances. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Est-ce possible donc qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, est-ce possible pour nous d'avoir la même efficacité que l'Église des Actes dans la prière? Pour même être capable d'affecter, de changer le gouvernement par la puissance de la prière. Ce n'est pas l'Église qui change, c'est Dieu. L'Église a prié, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. L'Église n'a pas prié, enlève Hérode. L'Église a intercédé. Et Dieu lui-même a dit, maintenant c'est bon. J'agis. Et moi j'aimerais vous dire que oui, c'est possible. Imagine ce soir que je te dis, non, c'est pas possible, viens pas prier. Tu viens pas prier parce que tu sais parfois que la prière manque de résultats. Et comme tu es déçu de la prière, eh ben tu dis, ça sert à quoi de prier? Tu as l'impression qu'on prie, qu'on perd notre temps et qu'on pourrait faire autre chose, donc pourquoi prier? Eh ben non! La prière est efficace. Si je te dis, je ne sais pas si la prière est efficace ou si on peut prier comme Élie, et après je te dis, viens prier, est-ce que tu vas venir prier? Mais si je te dis ce soir, et ça c'est vrai, qu'il est possible pour toi et pour moi d'avoir une vie de prière comme Élie, alors si tu es comme moi, je te pose des questions. Alors si parfois les circonstances dans ta vie te dominent, je te rends compte que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Je te rends compte que tu n'as pas compris quelle réalité vit en toi. Je te rends compte que, oh, il y a quelque chose en toi qui est plus fort que dans le monde. Mais tu n'arrives pas à manifester cette chose. Et ce soir, le Seigneur veut nous dire que cette chose, le royaume de Dieu, peut se manifester par la prière. Le règne de Dieu par la prière. Et j'aimerais te dire que oui, c'est possible d'avoir une piété comme Élie. et même nous challenger en te disant que c'est possible d'avoir une piété meilleure qu'Élie. Oh, quand même, pasteur. Pourquoi plus qu'Élie? Car Élie n'avait pas le royaume de Dieu en lui. Élie n'avait pas la puissance de la résurrection. Et nous si. Ha! Nous si. Le problème des enfants de Dieu, parfois de l'Église, c'est que oui, Dieu nous sauve et il est mort pour nous. Gloire à Dieu, Jésus est parti sur la croix, il a versé son sang pour que nous soyons lavés de nos péchés. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Ce qui rend Jésus réellement légitime aux yeux de tous les hommes et de tous les grands de ce monde, ce qui met Jésus au-dessus de tout, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il est la résurrection. Et qu'il veut que son Église montre qu'il est vivant. Il veut que son Église témoigne qu'il est vivant et vrai. Et pour ça, il nous donne la puissance de la résurrection. La Bible dit que si Jésus-Christ a ressuscité par l'Esprit, que cet Esprit habite en nous, alors nous aussi nous ressusciterons. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de la résurrection. Et Dieu veut que nous le manifestons pour clôturer le bec des incrédules. Par la puissance des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges. Par la puissance d'une autre réalité, pour que la foi, la paix, la joie soient notre portion, même dans les moments difficiles, pour que lorsque Satan essaie de te brûler avec son mauvais feu, alors tu ne te consumes pas, et tu restes dans la paix, et tu restes dans la joie. C'est possible. C'est le cœur de Dieu pour son Église. Il est possible d'avoir une piété, non pas uniquement comme Élie, plus qu'Élie. La Bible dit qu'à la fin des temps, Dieu va envoyer l'esprit d'Élie. Mais j'aimerais vous dire ce soir que non seulement l'esprit d'Élie va arriver à la fin des temps, mais nous avons l'esprit de Christ. Élie était dangereux, mais Jésus était plus dangereux encore. Jésus parlait au vent et le vent s'arrêtait. Jésus parlait à la mer et la mer se calmait. Jésus parlait aux maladies. Jésus parlait au corps. Jésus parlait aux circonstances. Jésus chassait les démons. Et ce Jésus-là, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et son royaume est en nous. Et son royaume est inébranlable. Son royaume est inébranlable. Et il désire te fortifier ce soir. Il désire t'ouvrir les yeux et nous ouvrir les yeux pour que nous puissions réaliser que la domination, le règne est en nous, mais que ce règne ne peut pas se manifester si on n'apprend pas à prier. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et je crois que dans ce lieu, si ce n'est pas la quasi-totalité, nous avons tous besoin que son règne vienne dans nos circonstances. Nous avons tous besoin que son règne vienne dans ton travail, dans tes finances, dans ton couple, dans ta maison, dans ton corps. Vous savez, avec Jésus, ce n'est pas moins les misères et moins les malheurs. C'est moins les prospères et moins les bonheurs. Pas pareil. Moi, une chanson à faire, Marcel. Moi, les prospères et moi, les bonheurs. Pouvons-nous, écoutez, ma question c'est, pouvons-nous, pensez-vous, prier comme Jésus? C'est-à-dire avoir la même efficacité dans nos prières. Franchement, je pensais que ce n'était pas possible. Je croyais qu'au départ, j'ai prié comme Jésus, ce n'est pas possible. Jésus, c'est Jésus. C'est, d'accord. Il est homme, mais 100% Dieu aussi. Jusqu'à que la parole de Dieu me frappe aux yeux, au cœur, aux oreilles. Et qu'il est écrit dans Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût le Fils, il a été exaucé à cause de sa piété. Pas parce qu'il était le Fils. Oh là 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 là. Il a été exaucé à cause de sa piété. pas parce qu'il était le fils. Et ça, ça devrait créer en toi et en moi un grand amen. Parce que cela signifie que toi et moi, nous sommes les fils de Dieu. Mais ce n'est pas à cause que nous sommes fils ou chrétiens, tout simplement, que les choses vont se passer. C'est à cause de ta piété, de ma piété, de notre piété. Car Jésus lui-même a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il fût le fils, cela nous montre que la prière, lorsque tu t'exerces à la piété, devient dangereuse, efficace. Et nous donne l'espérance que, à partir de ce soir, on est capable, chacun d'entre nous, d'avoir un style de vie de prière, de piété, qui progresse de gloire en gloire et de foi en foi, pour amener à ce que le royaume en nous se manifeste au travers de nous, parce que c'est le cœur de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à régner par la prière. Et qu'est-ce que cela signifie, amener le règne par la prière? Cela signifie ceci, que pour exercer la royauté et la domination qui est en nous, nous devons d'abord être un prêtre. Hein? Nous devons d'abord être un prêtre. Le peuple de Dieu est un prêtre-roi, un peuple de prêtres et un peuple de rois en même temps. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal. Ça parle, le sacerdoce, c'est la prêtrise, être prêtre. Et royal parle de royauté, un peuple de prêtres rois. Pierre le dit, et Jean le dit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple de prêtres rois. Peut-être que tu ne connaissais pas, que tu sois homme ou femme, tu es un prêtre. Que tu sois homme ou femme, tu es un roi. Si tu fais partie du peuple de Dieu. Vous savez, sous la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, ces deux fonctions étaient séparées. La prêtrise, le sacerdoce, était pour la tribu de Lévite et la royauté était pour la tribu de Juda. Mais Jésus est venu ramener ces deux fonctions en une, parce que cela n'a jamais été le cœur de Dieu de séparer ces fonctions. Adam lui-même avait ces deux fonctions. Et Jésus, le second Adam, est le roi des rois, mais aussi le prêtre des prêtres. La Bible dit dans Hébreux 5, à partir du verset 6 cette fois, « Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » Jésus est exaucé à cause de sa piété. Mais il était prêtre, établi prêtre selon Dieu, selon l'ordre de Melchizédek, nous dit la parole de Dieu. Melchizédek n'était pas seulement un prêtre, quand on lit les Écritures, il était un roi. Et ça faisait bizarre pour le peuple hébreu à l'époque, parce que les deux fonctions étaient toujours séparées. Mais voici le second Adam qui arrive, qui manifeste la royauté, le sacerdoce, comme Melchizédek à l'époque. Melchizédek était le grand prêtre sacrificateur, mais il était aussi roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Et son nom signifie roi de justice. Et l'apôtre qui écrit ici l'épître aux Hébreux dit que Jésus est venu dans la lignée de Melchizédek, un prêtre roi qui réunit les deux fonctions. Et si tu es en Christ, né de nouveau en lui, alors toi aussi tu as ces deux fonctions. Parce que pour manifester la royauté et la domination, il faut d'abord être un prêtre. Il faut d'abord être un prêtre. Attention, le problème, lorsqu'on parle de prêtre, on pense prêtre avec soutane. On pense prêtre avec soutane, en général, sans, il ne se marie pas, il est avec sa soutane. C'est pas ça, un prêtre. On a des mauvais clichés, il nous faut nous renouveler dans notre pensée pour savoir ce qu'est un prêtre selon le cœur de Dieu. Un prêtre selon Dieu, c'est un prêtre qui est habitué, accoutumé à la présence de Dieu. On dit que le prêtre, oui, intercède pour Dieu devant les hommes et devant les hommes pour Dieu. Il est l'intermédiaire, oui, mais pas que ça. Le prêtre, c'est celui qui est habitué à la présence de Dieu. Il honore la présence de Dieu. Le prêtre est celui qui sait offrir, bien sûr, des sacrifices. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait offrir des sacrifices d'animaux. Dans le Nouveau Testament, le prêtre, c'est lui le sacrifice. C'est lui qui se sacrifie pour les autres. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est le rôle du prêtre. Le rôle du prêtre, c'est, vous savez, il y a la puissance dans le sacrifice. Quand le sacrifice est bien fait, c'est dangereux. Si tu donnes ton offrande chaque dimanche, tu donnes avec un cœur correct, c'est dangereux. Quand tu sacrifies ton temps pour Dieu, et tu le fais avec un cœur correct, tu es dangereux. Quand tu viens prier et que tu le fais avec un cœur correct, tu es dangereux. Le prêtre amène le sacrifice. Le prêtre est habitué à faire descendre la présence de Dieu. Il est habitué à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est sa présence qui libère l'autorité du roi. C'est sa présence qui libère la puissance. C'est sa présence qui amène la délivrance. C'est pour ça qu'il n'est pas possible d'emmener le règne, l'autorité, si on ne sait pas fonctionner en tant que prêtre. Et un prêtre prie. Un prêtre prie. Encore une fois, le prêtre, ce n'est pas celui qui a une soutane. Celui qui connaît la présence de Dieu. Qui a une vie de sacrifice pour Dieu, pour les autres. Et le parfum de Dieu l'accompagne. Ce prêtre-là, homme ou femme, a la capacité d'exercer et de libérer l'autorité du roi qui est en lui. Amen. Il est quasiment impossible d'exercer notre autorité de roi si nous n'arrivons pas à fonctionner dans notre responsabilité de prêtre. Donc il est quasiment impossible. Si tu veux que tes circonstances changent, si tu es fatigué d'être toujours sous l'oppression des mêmes problèmes, si tu en as assez de ne pas avoir assez de percée spirituelle, comprends ce soir que le prêtre des prêtres vit en toi, que le roi des rois vit en toi, que le royaume de Dieu est en toi. Et ce qui est en toi a l'autorité, la puissance pour changer ce qui est autour de toi. Mais pour ça, il te faut apprendre à exercer le règne par la prière. Il faut apprendre à exercer sa responsabilité de prêtre pour libérer l'autorité du roi. Un sacerdoce royal. Attention, lorsque je parle de roi aussi, c'est pareil. Le cliché qu'on a des rois est à l'ouest. C'est pas le roi qui est sur son trône, dans son palace, à 10 000 lieues, et dont, qui a 50 000 serviteurs. Jésus n'est pas un roi comme ça. Et Jésus n'est pas un prêtre comme le cliché du monde. Le prêtre et le roi dont je te parle, c'est Melchizédek, celui qui est selon l'ordre de Melchizédek, c'est-à-dire Jésus. Jésus n'était pas sur son trône à 10 000 lieues pendant qu'il était sur terre. Aujourd'hui, si, sur son trône. Mais le roi dont je te parle, c'est le roi qui est capable d'amener la domination sur les circonstances qui l'assaillent. C'est le roi qui est capable d'amener la royauté de Dieu, c'est-à-dire qui consiste en la justice, la paix et la joie dans sa famille. Parce que tu ramènes le règne de Dieu dans ta famille. Et ta famille est remplie de joie, remplie de paix, remplie de justice. Celui dans son travail, qui est responsable peut-être d'une entreprise, il est manifeste dans son entreprise l'autorité du roi. Et il emmène la justice, la paix et la joie. C'est pas le roi qui est perché sur son trône. Ça parle de celui qui est tellement dans l'intimité de Dieu qu'il exerce l'autorité de Dieu sur ses circonstances. Et ça, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous rappeler ceci aussi. Il y a aussi des prêtres du royaume des ténèbres dans ce monde qui nous entoure, qui s'appellent les sorciers, les devins et autres. Et eux aussi exercent des sacrifices d'animaux et parfois même humains pour avoir de la puissance, pour mettre des sorts sur les gens, pour exercer une pseudo-domination sur les circonstances et sur les gens. Il y a des prêtres, des ténèbres, des sorciers. À La Réunion, il y en a plein. Et si l'Église comprend que vous et moi, nous sommes aussi des prêtres, capables d'exercer l'autorité et la domination de Christ, nous pourrons stopper le conflit que causent ces prêtres des ténèbres. Des gens qui ne connaissent pas Dieu utilisent le monde spirituel pour leur propre soif, pour leur propre ego. Et Dieu veut que son Église comprenne la réalité du monde spirituel pour la gloire de son nom, pour amener la paix, la justice, la joie. Jésus dit dans Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, quand votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous sommes ces petites brebis avec l'autorité du royaume de Dieu en nous. Il y a une guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Hein? Satan est l'adversaire des hommes. Avec Dieu, il a déjà perdu. Avec Dieu, il est déjà vaincu. La Bible dit qu'à la fin, Dieu le laisse un sursis, et qu'à la fin, quand il va paraître devant Jésus, le souffle de la bouche de Jésus va le terrasser. Jésus va juste faire pff, c'est toi pff, juste le pff, trop fort volé, le puf de Jésus, trop fort volé. Jésus prend même pas à se déplacer, il fait juste pff. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, mais l'adversaire des hommes. C'est pour ça que Dieu fait homme devait triompher en tant qu'homme et pas en tant que Dieu. C'est pour ça que Jésus devait triompher en tant qu'homme et pas en tant que Dieu. Et il a triomphé. Et comme il a triomphé, il est assis à la droite de Dieu. Il a toute autorité maintenant, dans les cieux et sur la terre. Et il nous donne le nom, son nom, pour exercer son autorité. Et il dit, maintenant je te donne la puissance, toi, pour être plus fort que ton adversaire. Si tu mets ta confiance en moi, si tu crois en moi, je donne cette autorité. Et tu es capable de l'utiliser. Car nous sommes en guerre contre le prince de la puissance de l'air. J'aimerais vous dire ceci. Nous ne nous battons pas contre des esprits mauvais qui sont en enfer. Les esprits mauvais avec lesquels nous nous battons ne sont pas en enfer. Hein? Si tu as toujours cru ça, c'est faux. Ils sont dans l'air. C'est pasteur, qu'est-ce qu'on raconte là? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Là, déjà, il y a une domination. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pas en enfer, dans les lieux célestes. Pas en enfer, dans les lieux célestes. Si tu préfères, dans la réalité de l'esprit. Comment ça se fait qu'ils sont en enfer et qu'ils viennent nous tourmenter parfois? Reste en enfer. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, qu'ont les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 2:2 nous dit ceci, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Pas de l'enfer. De l'air. Le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. C'est pour ça, lorsqu'on prie et qu'on exerce à notre tour la domination que le roi des rois, le prêtre des prêtres, le seigneur des seigneurs nous a donnée, que dans le nom de Jésus, on exerce la domination contre d'autres dominations, contre des dominations mauvaises, autorités mauvaises, mais qu'on s'adresse et qu'on parle et qu'on déclare et qu'on vocalise dans l'air, on affecte l'atmosphère. Je te garantis, fais l'essai. Non, fais pas l'essai. Mais imagine, tu es dans un lieu, dis plein de mauvaises choses et regarde comment va tourner l'atmosphère. Tu es dans un même lieu, dis plein de bonnes choses. Encourage, fortifie, édifie, témoigne, donne de l'amour et regarde comment ça va changer l'atmosphère. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes méchants, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits mauvais qui sont dans les cieux. La réalité de l'invisible est vraie. Et nous avons en nous un royaume invisible, surpuissant. La Bible dit que Jésus a été élevé bien au-delà de toute domination, c'est-à-dire, mais c'est même pas la terre et la lune, entre les dominations et Jésus-Christ, c'est l'univers qui les sépare. Bien au-dessus. Et lorsqu'on prie, on déploie les forces aériennes de Dieu. On envoie ses anges. Ces anges viennent délivrer Pierre. Lorsque l'Église prie, l'atmosphère change. Lorsque l'Église prie, l'armée aérienne de Dieu prend place. Le pasteur Bruno a commencé à faire allusion la semaine dernière lorsqu'il disait « Quelle armée va en guerre sans d'abord envoyer sa flotte dans les airs pour pilonner, bombarder les points stratégiques de son adversaire ?» Si l'armée a une force aérienne et qu'elle n'utilise jamais et qu'elle veut aller dominer l'autre territoire et qu'elle envoie que ses troupes de terrain, elle risque de gagner un sacré coup, c'est-à-dire de perdre. Mais si l'armée est stratégique et dans les airs, elle est dangereuse. Dans les airs, elle est stratégique. Dans les airs, oh, il y a des pilotes dangereux. Et qui vont pilonner, bombarder les points stratégiques ennemis. C'est la même image dans l'esprit. Et une église qui prie libère les forces aériennes de Dieu. C'est pour ça que, à partir de ce soir, nous voulons encourager chaque frère et sœur qui désire ouvrir un groupe de prière. De, si vous pouvez à la fin, donner votre nom, s'il vous plaît, pour ouvrir un groupe de prière. Et les groupes de prière de l'Église, on va appeler ces groupes-là les groupes Air Force. Pour que l'Église puisse comprendre que son rôle est primordial pour lutter contre le prince de la puissance de l'air. Et c'est le cœur de Dieu. Il nous faut rebâtir l'autel de prière, comme le disait le pasteur Harold Weiss. Et frères et sœurs, si dans ce lieu ce soir, tu as compris que tu es d'abord un prêtre pour exercer l'autorité du roi, si dans ce lieu ce soir tu as compris que tu peux changer les circonstances en manifestant l'autorité de Christ qui est en toi, et que tu désires dire « je veux être plus efficace dans ma vie de prière », parce que tu as compris qu'une vie de prière efficace va changer réellement ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Et que tu désires ouvrir un groupe de prière. À l'arrière, il y aura une table avec une fiche d'inscription. Il y a déjà 10 groupes de prière dans l'église. Mais on veut encourager tous ceux et celles qui veulent ouvrir un groupe de prière. 2 ou 3 personnes à ouvrir un groupe de prière. Et toutes les semaines, avec Samuel et toute l'équipe, on va vous envoyer une pensée pour la semaine, on va vous coacher sur la prière, on va partager les témoignages de guérison et d'autres choses qui se font de part et d'autre. On va vraiment tout faire pour bâtir l'autel de prière. Pour qu'on espère d'ici quelques mois être des centaines de personnes à prier. Si on veut prendre notre nation, tout se passe par la prière. Notre capacité vient de Dieu, nous dit les Écritures. Et si ta capacité vient de Dieu, alors prie. Alors prie. Et on aura donc un suivi pour les témoignages, pour les requêtes de prière, pour vous enseigner. On a déjà plein d'enseignements sur la prière. Vous partagez chaque semaine. Et on va vous encourager à bombarder l'atmosphère dans votre quartier. On va vous coacher et on va vous apprendre à prier de manière de plus en plus précise et efficace pour que vous puissiez de plus en plus exercer votre autorité. Donc si tu sens un appel à la prière, peut-être que tu es un intercesseur, alors n'hésite pas à aller à l'arrière et donner ton nom, prénom, et on va prendre ton numéro de téléphone et on désire élever une armée aérienne pour faire le plan de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à libérer l'autorité de Christ par la prière. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Est-ce qu'Émilie peut venir avec le groupe de louanges?